l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes mardi 21 janvier 2025, il est 6h15 dans les studios de Radio Mandeléo, place au journal. Au sommaire, depuis la matinée d'hier, lundi 20 janvier, dans la cité de Minova, en territoire de Calais, c'est une psychose qui y régnait. Ceci suite au coup de balles et détonations entendues dans les collines surplombant cette cité. Des familles ont quitté leurs habitations pour se réfugier à Bouzibulenga, située à environ 12 km de Minova. Contrairement aux rumeurs qui circulent, nos sources à Calais confirment que la cité de Minova reste sous contrôle des FARDC. Et les travaux de réhabilitation et construction de l'aéroport de Kavumu sont à l'étape d'études avant le début des grands travaux. La confirmation est de Zeid Ben Ali, responsable de la société Sokerico qui exécute ces travaux. Zeid Ben Ali, qui est notre invité ce matin, reviendra sur le déroulement de ces travaux. Voilà tout pour les titres. Hélène Boudjéré, c'est mon nom. Emile Mouindo sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Mandeléo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Débutons par cette information. Hier lundi, les habitants de Bougor et Irambi Katana et Miti ont passé la journée sous tension. En effet, des mouvements de va-et-vient inhabituels des militaires ont été observés, les uns armés, d'autres non. Des débordements qui ont conduit à des tirs nourris presque toute la journée, faisant croire à des affrontements ou alors l'entrée des rebelles. Des habitants sont restés enfermés chez eux toute la journée. À Kabamba, par exemple, le marché actif tous les lundis n'a pas fonctionné. Aucune boutique n'a ouvert ses portes et les activités ont cessé vers 15h, tout comme au centre commercial de Kavumu. À Tchombo, dans le groupement des Miti, un élève de la deuxième année à l'Institut Tchombo a été atteint d'une balle perdue au niveau de la cuisse et transféré au centre hospitalier de Karanda, Kavumu. De nos sources, nous apprenons que la situation reste confuse ce matin dans ces trois groupements situés dans les territoires des Kabarets, des tirs d'armes et continue à s'y faire entendre dans tous les sens. Entre-temps, Minova, une psychose régnait depuis la matinée d'hier, lundi 20 janvier, dans la cité de Minova, un groupement de Bouzi dans les territoires des Kalehe. Ceci suite aux coups de balles et détonations entendues dans les collines qui surplombent la cité de Minova. Déjà, plusieurs familles quittent leur habitation pour se réfugier dans la presqu'île de Bouzibulenga, à environ 12 km de Minova. Selon la société civile Force et Vive du groupement de Bouzi, la crainte a été vive aussitôt que les bureaux de la police et agents de l'auditorat ont organisé un repli stratégique vers les destinations plus sécures. Sadiki Juge, président de cette structure, confirme néanmoins que la cité de Minova reste sous contrôle des forces armées de la RDC, d'où son appel à la solidarité et l'unité derrière l'armée nationale. Les combats se concentrent essentiellement dans les villages Bitonga et Bishangi, un groupement de Mfunishanga à la limite avec les groupements de Bouzi à 7 km de Minova. Sadiki Juge.
La population a commencé à évacuer lorsque la vie, les éléments de la police et quelques éléments de l'auditorat faire un petit repli. Et alors la population a commencé à quitter, mais aussi lorsque les coups de balles ont retenti dans tous les sens à Minova. Aujourd'hui, la situation depuis le matin, il y a bombardement sur bombardement. Les affrontements continuent sur l'axe Kashenda, Bitonga, Bikorwa, Silaxe aussi de Bishange, Kalambairo, où les affrontements continuent. La population de Bishange, de Bitonga, la population de l'axe montagneux du groupement Mufunishanga, Mufunikaruba et du groupement de Bouzi à quitter leur zone suite au bombardement. Présentement, je suis à Minova. L'ennemi n'est pas à Minova et les éléments de défense continuent à faire tant soit peu le travail. Cependant, nous appelons la population à faire confiance à l'armée car nous espérons que l'armée va faire de son mieux pour reconquérir les zones occupées.
Il s'est de préciser que le M23 a occupé l'agglomération de Lumbishi dans les groupements des Bouzi depuis le samedi dernier. L'information est confirmée par le secrétaire administratif du groupement des Bouzi qui indique que toute la soirée d'hier, il y a eu des tirs sur Minova, Boremana et Kalungu, ce qui n'a pas permis à la population de se ravitailler en nourriture. Il dit qu'après la ronde effectuée, il a constaté que plusieurs habitants et déplacés sont restés à domicile, ne sachant quelle direction prendre. Il dit également avoir tenté pour avoir d'amples précisions auprès des FARDC et même le Wazalendo sur la situation et la conduite à tenir, mais en vain. Entre-temps, les FARDC affirment avoir déjoué une attaque de la coalition des groupes rebelles Makanika alliés au Red Tabara contre une de ses positions du 132e bataillon de la 13e brigade de réaction rapide basée dans la localité dite Ujeafi, non loin de la rivière Luiko à Minembwe dans le territoire de Fizi. Face à cette attaque, l'armée a réagi en infligeant une perte significative à ces terroristes dont 6 ont été tués et 8 autres ont été blessés. Actuellement, la situation est sous contrôle des FARDC et appelle la population à vaquer à ses occupations tout en collaborant avec son armée en vue de déjouer les plans machiavéliques des ennemis de la République, à en croire les lieutenants Marc Elongo, porte-parole des opérations Sukola 2 Sud Kivu basé à Uvira.
Hier, dans la matinée, la coalition des terroristes Makanika alliés au Red Tabara, Palais du Rwanda à travers l'AFC M23, ont attaqué la position de l'armée loyaliste du 132e bataillon, la 13e brigade de réaction rapide basée dans la localité dite Ujeafi, non loin de la rivière Luiko. Face à cette attaque, votre armée, forces armées de la République démocratique du Congo, ont réagi et ont déjoué celle-ci en infligeant une perte significative à ces terroristes, dont 6 ont été neutralisés et 8 blessés. Réaffirmant son engagement républicain, forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêt à riposter à toute tentative d'attaque de l'ennemi qui n'a qu'une seule vision, celle de semer la terreur et de déstabiliser les institutions du pays. Actuellement, la situation est calme et sous contrôle de votre armée et nous appelons la population à vaguer librement à ses occupations et à collaborer avec son armée en vue de déjouer ces plans machiavéliques des ennemis de la République.
Le lieutenant Marc Elongo est le porte-parole des opérations Sukola 2 Sud Kivu basé à Uvira. Et la prise depuis samedi dernier de la localité de Lumbishi, un groupement de Bouzi dans les territoires de Kalehe, à la limite entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, est une perte importante pour le gouvernement. C'est ce qu'estime Patrice Lobagouma de l'Institut pour la gouvernance et l'éducation électorale, qui pense que le gouvernement devait mettre un accent particulier sur cet axe stratégique et aussi riche en minerais. Il indique que Lumbishi est la zone la plus importante de l'Afrique centrale qui produit les coltans d'une plus grande teneur, a-t-elle enseigne que sa prise par les rebelles pourra constituer pour eux une nouvelle ressource financière qui pourrait leur permettre de s'alimenter en matière d'armement. En plus, ajoute Lobagouma, les différentes taxes que paient les creuseurs des minerais et autres opérateurs économiques qui exercent dans la région pourra bénéficier désormais aux rebelles. On l'écoute.
La zone de Lumbishi est la zone la plus importante dans l'Afrique centrale qui produit les coltans de plus grande teneur. Ça signifie qu'au minerai stratégique aujourd'hui, si Lumbishi est pris, ça signifie que le rebelle du M23 aura une nouvelle ressource financière qui pourra leur permettre de nouveau de pouvoir s'alimenter en matière d'armement. Parce que vous connaissez aujourd'hui que le minerai du coltan est vendu par tantale et le tantale c'est parmi les minerais actuellement qui coûtent extrêmement cher. Sur le plan économique, ça signifie que tous ces minerais-là et tous les trafics qui s'est fait et les taxes que nous percevons au niveau de Lumbishi, ça seront donc des taxes qui seront perçues par le rebelle du M23. Nous demandons en tout cas au gouvernement de mettre un accent plus particulier sur la zone de Lumbishi parce que c'est une zone fortement stratégique. Et je vous dis que pour moi, j'ai une crainte au cas où on ne travaille pas efficacement sur cette zone-là, que vraiment la guerre ne puisse pas atteindre Bukavu.
Entre-temps, le président Félix Tshisekedi est arrivé hier lundi 20 janvier à Davos, en Suisse, pour participer à la 55e édition du Forum économique mondial. Selon des sources à la présidence, 4 ministres sectoriels accompagnent les chefs de l'État à cette rencontre annuelle. Il s'agit de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, la ministre d'État à l'Environnement, Eve Bazaïba, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et celui des Mines, Kizito Bakapomba. Les mêmes sources rapportent que cette conférence mondiale prévue du 20 au 24 janvier réunit plus de 2500 participants issus du monde économique, politique, scientifique et culturel. Les participants ont pour objectif, entre autres, de trouver des solutions concrètes à divers problèmes comme la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques ou encore les tensions géopolitiques. Et Donald Trump a été investi hier lundi 20 janvier pour un second mandat à la Maison Blanche lors d'une cérémonie qui marque l'un des retours en politique les plus stupéfiants de l'histoire des États-Unis. Donald Trump a prêté serment à midi, c'était au Capitole à Washington. La cérémonie qui devait initialement se dérouler devant les Capitoles a eu lieu à l'intérieur du complexe du Congrès en raison du froid glacial. Il a ensuite prononcé son discours inaugural. L'âge d'or de l'Amérique commence, a-t-il promis. À partir de maintenant, le déclin de l'Amérique est terminé, a également assuré Donald Trump. Exactement 6h25 dans les studios de Radio Mandeleo.
Suivez Radio Mandeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomandeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Mandeleo. Radio Mandeleo, c'est vous.
Permettez-moi d'échanger des chapitres pour parler des usagers de la route nationale numéro 2 Bukavu-Walungu-Mwenga qui dénoncent l'arrêt des travaux de construction du pont situé à l'entrée de l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu sur avenue Georges Defour au quartier Nkafpoint, commune de Kadutu. Ils l'ont dit lors d'une descente effectuée sur place par Radio Maïdéléo hier lundi 20 janvier 2025. Mapendoli, plutôt Alain Kabika.
Les constats sur place font état de l'abandon sur les lieux des quelques engins utilisés dans l'exécution de ces travaux. Aucun travailleur n'est visible sur les terrains, à part quelques curieux pour voir les travaux déjà exécutés. Des usagers de cette route disent traverser plusieurs difficultés liées au non-achèvement de ces travaux. C'est notamment la hausse du prix des transports en commun, mais aussi les risques de tomber dans la canalisation qui a été créée comme passage provisoire en attendant la fin des travaux. Ces derniers rappellent qu'il est difficile de circuler sur cette route de déviation au vu de son état et l'état dans lequel se trouvent les ponts en pleine réhabilitation. À ceci s'ajoutent les calvaires des élèves, fonctionnaires et étudiants se rendant à l'école et qui arrivent en retard à leur lieu de service suite aux embouteillages créés sur place surtout les matins. Ces usagers proposent les remplacements de la société qui exécute les travaux à cet endroit et confier le marché à une société sérieuse qui va travailler en respectant les clauses. L'un d'eux, Jibilé Fikiri, en parle.
Premièrement, le monte des tickets, frais de transport. Le ticket de transport était à 1000 francs, mais actuellement, c'est 2000 francs à 2500. Des deux différentes difficultés, surtout chez les personnes âgées qui traversent souvent la route de place jusqu'aux hommes d'autorité. Ils puissent recruter des ingénieurs qui ont des expériences suffisantes par rapport à cette matière afin qu'ils puissent redébuter encore le boulot et le terminer dans un délai accordé afin de permettre à la population de diminuer surtout les frais de transport et les différents accidents.
Rappelons que ces travaux exécutés par la société congolaise de construction Sokok ont été lancés pour une durée de 3 mois. Selon les autorités provinciales, les temps écoulés est de près de 5 mois.
Et le député national Namaziana Bachoke Patrick a lancé hier lundi 20 janvier un projet de construction d'un mur de soutènement d'un canal d'évacuation des eaux qui sépare l'avenue route d'Ouvira 2 à l'avenue industrielle Nyamugo. Ces travaux sont exécutés pour protéger ces canaux autour duquel vivent plusieurs familles, selon le député national Namaziana Bachoke Patrick, dit Bakawabana. Ces canaux ainsi que les collecteurs Kawa constituent un danger permanent pour les habitants qui vivent aux abords. Considérant l'urgence et la nécessité de les rendre viables, l'élu de Bukavu dit lancer ses projets pour prévenir les pires. On l'écoute.
Je suis l'enfant de Nyamugo, je suis l'enfant de Rudouvira et c'est dans ces soucis qu'on vient de lancer la deuxième phase des travaux qu'on a entamés l'année passée. Nous avons commencé par la construction du mur du Gawa. Mais maintenant, aujourd'hui, on va lancer les travaux pour construire un autre caniveau pour nous aider à épargner des vies. Legawa nous a déjà pris plusieurs enfants, plusieurs parents et aussi plusieurs biens. C'est comme ça que nous sommes en train de lutter contre les érosions dans ces quartiers. Et nous appelons aussi les autorités provinciales de nous soutenir dans cette activité de construction de ces murs qui va protéger des millions et des milliers de vies et aussi des biens des paisibles citoyens.
Il s'est de préciser que le député Namaziana Bachoke, Patrick Odi Bakawabana, séjourne à Bukavu dans le cadre de ses vacances parlementaires. Mapendo Linda, je t'ai cité déjà. Parlons alors de la société civile noyau de Nyalukemba qui salue les efforts fournis par la Régie des eaux dans l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Bukavu, particulièrement les coins qui ont fait des années sans avoir une goutte d'eau coulée de leur robinet. C'est notamment la majorité des robinets d'Engouba au quartier Nyalukemba, en commune d'Ibanda et dans certaines parties d'Indendere.
Cette structure citoyenne salue la bravoure de l'équipe dirigeante de cette société étatique qui se bat sur tous les fronts pour combler les vides et faire parvenir de l'eau dans les robinets des abonnés. Son président, Obedi Mavu Eli, rappelle néanmoins que certaines autres avenues ne sont toujours pas servies comme Cercle Hippique ou encore Irambo, d'où l'appel à fournir encore plus d'efforts. Néanmoins, poursuit la société civile noyau du quartier Nyalukemba, le directeur de la Régie des eaux est appelé à bien gérer la question des factures qui ont été émises pendant la période où les abonnés n'avaient pas d'eau particulièrement, en 2021, 2022 et même 2023. Obedi Mavu en parle.
Nous ne pouvons pas, surtout ne pas encourager les efforts fournis par la Régie des eaux en fournissant de l'eau dans plusieurs parties du quartier Nyalukemba, ici dans la commune d'Ibanda. Mais peut-être on peut leur demander de ne pas faire payer les factures des mois qui n'ont pas consommé, parce que vous savez, il y a de ces avenues-là qui ont fait plus de 11 mois, 13 mois, et ça que l'on encourage. Toutefois, nous sommes en train de plaider auprès du directeur de voir comment aussi desservir les avenues comme Cercle Hippique 1, Cercle Hippique 2, mais aussi faire les raccordements au niveau de Hewabora 1, Hewabora 2. Ce sont des avenues qui, il n'y a même pas de raccordement, au moins que nous sommes dans un même quartier où toutes les avenues sont reconnues.
Pour sa part, la Régie des eaux annonce poursuivre son programme afin de renforcer la desserte au profit des abonnés. Son directeur, Ignace Ilunga, appelle les abonnés qui avaient été coupés de passer régulariser leur situation et tout celui qui voudrait se faire abonner nouvellement à ne pas hésiter de formuler la demande.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
En sport, les élections de la tente urbaine de football de Bukavu sont maintenues en date du 24 janvier 2025. La commission électorale l'a confirmé dans une décision qui détermine la liste des électeurs qui prendront part à cette assemblée générale. Au total, les représentants des 22 clubs de la première division, 8 clubs de la première division et des équipes des jeunes participeront à cette assemblée générale qui se tiendra à un lieu qui reste à déterminer. Au terme de ces scrutins, les membres du comité, parmi lesquels les présidents, les secrétaires et les trésoriers, seront élus. En sport loisirs, le VC Kosekivu a perdu devant l'équipe des Gigi Sports du Burundi qui regroupe les fonctionnaires de l'État. Les scores au terme de ces matchs est de 2 buts à 5. Les matchs s'est joué au centre technique de la Fédération internationale de football, l'association FIFA au Burundi. Il s'est de préciser que l'équipe du VC Kosekivu a été conduite à Bujumbura par son président et directeur général de la Kosekivu, Chibanguka Mugula Justin. Toutes les coopératives du réseau Kosekivu ont délégué les leurs dans cette équipe, précise Patrick Magana, chargé de communication de l'équipe. À 6h32, prenons l'invité du journal.
Radio Maedeleo, la radio de développement, place à l'invité du journal.
Comme annoncé en titre, les projets visant à réhabiliter et à construire l'aéroport de Kavumu sont exécutés selon les conventions prises entre le gouvernement et la société qui exécute les travaux. La société Sokerico est actuellement à la phase des études avant le début des grands travaux. La précision est de Zeid Ben Ali, l'un des responsables de cette société de construction au cours d'un entretien accordé à Radio Maedeleo lundi 20 janvier 2025. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les les réseaux sociaux parlant d'un arrêt des travaux lancés il y a seulement 8 mois. Zaid Ben Ali rappelle que ce n'est en octobre que les contrats ont été signés entre son entreprise et le gouvernement ainsi que d'autres parties prenantes. Ces travaux vont durer 2 ans, explique-t-il, avant d'ajouter que l'aéroport sera réhabilité et construit au standard international. Zaid Ben Ali s'entretient avec Mapendo Linda.
Monsieur Zaid Ben Ali, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'entreprise Sokerico, une entreprise à qui les marchés de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Kavumu a été confié. Vous pouvez d'abord expliquer à nos auditeurs à quoi consiste ce projet-là de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Kavumu.
Le projet consiste de faire prolongement de la piste existante de 700 mètres et la construction d'une nouvelle aérogare R+1. Ce sont deux lots. Il y a le lot 1, donc réhabilitation et prolongement de la piste existante et puis la construction de l'aérogare, une nouvelle aérogare.
Et pourquoi prolonger la piste?
Il faut prolonger la piste pour qu'il soit selon les normes et pour accueillir l'avion référence qui est Boeing 737 parce que ça sera donc un aéroport international. C'est pour cela il faut le prolonger pour arriver à une distance, à une longueur définie pour assurer donc le vol et l'atterrissage, vol de l'avion de référence.
Et actuellement vous êtes à quelle étape?
Pour le moment on fait l'excavation de l'aérogare parce que le niveau de l'aérogare est très supérieur au niveau de piste. Nous avons fait les études nécessaires qui sont les études hydrogéologiques, les études géotechniques, les études topographiques. Nous sommes à la fin de ces études. Tout ces durées donc est consacré pour les études.
Et après, qu'est-ce qui va suivre?
Après, donc, on va préparer les plans d'exécution détaillés. Donc, pour continuer les travaux, donc prolongement de la piste, tout ce qui est nécessaire, les excavations de l'aérogare. Et de plus, au niveau de prolongement de la piste, il y a un défi qui est la rivière de Kabolanga. Puisque la rivière de Kabolanga passe par la piste qui sera prolongée. C'est pour cela donc il faut prévoir les études bien détaillées au préalable pour cette rivière pour savoir quel ouvrage on va construire là-bas pour assurer la continuité de la piste. La durée de ce projet, c'est 24 mois. Ça va durer 2 ans.
Et les études en soi vont prendre combien de temps?
Bon, les études sont presque, nous sommes à 95%, presque finalisées.
Et il y a des spéculations sur les réseaux sociaux et certaines bouches indiquent que rien n'est fait à l'aéroport de Kavumu. Pourtant, ça fait 8 mois que le lancement a eu lieu. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces rumeurs?
Bon, il faut tout d'abord clarifier la durée, donc passée, c'est pas 8 mois. Pourquoi? Parce que la date de démarrage des travaux a commencé le 22 octobre. Il y a un PV donc, qui a été signé entre le ministère de transport, donc les services de contrôle, la société Sokerico, les régies des voies aériennes. Donc la date de commencement, c'est le 22 octobre 2024. Nous sommes dans la semaine 13.
Donc on peut dire que vous êtes sur une bonne voie selon les conventions?
Oui, exactement. Donc nous respectons vraiment les délais puisque ce délai donc est passé pour faire les études et déjà il y a la mobilisation des équipements, les engins nécessaires pour faire les travaux de la piste, l'excavation. On peut dire même nous sommes avancés, c'est pas nous sommes en retard.
Et une fois que cet aéroport sera réhabilité, modernisé, quels seront les avantages?
Il y a beaucoup d'avantages. Il y a un impact social, économique donc, et environnemental pour la zone de Kavumu. Nous allons ramener le travail pour cette région. Donc cet aéroport va ramener donc, beaucoup de gens donc, puisqu'il est international. Il y a les gens qui vont venir donc, de différents pays. Il n'y a pas donc, de difficulté de voyager depuis Kinshasa, donc Kavumu. Donc ça sera donc, un vol direct. Et même au-delà des autres pays, il sera un aéroport international. Donc il va accueillir des avions donc, comme le Boeing 737. Hein, ce sont des avions qui ramènent les gens vers à l'international, les autres pays.
C'est une bonne nouvelle alors. Quel message avez-vous à l'endroit des habitants de la province du Sud-Kivu en particulier et à tous les Congolais en général?
je propose que la population soit patiente avec nous pour terminer les travaux et célébrer cette bonne nouvelle pour tout le monde.
Monsieur Zeid Ben Ali, nous rappelons à nos auditeurs que vous faites partie de l'entreprise Sokerico, chargée des réhabilitations et des modernisations de l'aéroport de Kavumu. Radio Maindeleo vous remercie.
Merci beaucoup pour votre accueil.
La revue de presse. Radio Maindeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La plupart des journaux parus hier lundi dans la capitale congolaise reviennent sur la position de fermeté du chef de l'État dévoilée lors de son discours à l'occasion de la cérémonie des échanges de vœux avec les représentations diplomatiques. Alain Kabika nous met à musique la revue de presse.
Ouvrons le bal avec Echo News qui rapporte que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réitéré la position ferme de la RDC face aux rebelles du M23 et au Rwanda, leurs parrains. Refusant toute pression extérieure, souligne cet hebdomadaire, le chef de l'État a exclu catégoriquement tout dialogue avec ces groupes rebelles, rappelant que cette ligne rouge est intransgressible. Selon ces portails, cette déclaration semble défier les appels au dialogue lancés le 12 janvier courant par ses homologues Denis Sassou Nguesso et João Lourenço. Dans une allocution d'une trentaine de minutes, précise le Phare, le chef de l'État s'est longuement attardé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ce quotidien note que Félix Tshisekedi a demandé à la communauté internationale d'infliger des sanctions contre les Rwandais pour son agression avérée du territoire congolais. Bien que les condamnations internationales soient importantes, écrit Info 27, le président congolais estime cependant qu'elles demeurent insuffisantes face à l'ampleur des destructions provoquées par le M23, soutenu par le régime de Kigali. Le chef de l'État a insisté, je cite, « La RDC ne demande pas de l'aide, elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté. » Quant à ceux qui plaident pour un dialogue avec le M23, il a réitéré sans équivoque que le dialogue avec un groupe comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Pour Tshisekedi, explique le journal Le Quotidien, le numéro 1 congolais veut que la communauté internationale transforme maintenant ses déclarations en actions tangibles et dissuasives. À cette même occasion, indique la prospérité, Félix Tshisekedi a fait mention des innovations apportées sous son impulsion pour la gestion responsable des aspects essentiels liés à l'intégration des anciens rebelles congolais au sein de la société. Devant les représentations diplomatiques, fait savoir ses quotidiens, le chef de l'État affirme avoir renforcé l'action du plan national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS. Sur un autre chapitre, Congo Nouveau rappelle que le président Tshisekedi a pris une série d'ordonnances. Au terme de ces dernières lues à la télévision publique, la RTNC révèle les tabloïds, le chef de l'État congolais a nommé des nouveaux juges, un procureur général et des mandataires publics. Au terme de ces ordonnances, poursuit ses portails, Marthe Odio Nondé, première présidente du Conseil d'État, est mise à la retraite. C'est Madame Selesele Wanselesele qui est nommée première présidente du Conseil d'État. À ce stade, note ses portails, Moke Mayele est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle et un autre haut magistrat, à savoir les procureurs près le Conseil d'État Iluta Ikombe, est également mis à la retraite. Au niveau des entreprises publiques, précise Congo Nouveau, Alexandre Chikala Mukendi a été nommé directeur général de la Compagnie nationale d'aviation Congo Airways et Mami Choponchi comme directeur général adjoint, conclut le journal.
Il est 6h43, c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Maindeleo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Vous l'avez suivi depuis la matinée d'hier, lundi 20 janvier, dans la cité de Minova, en territoire de Calais, psychose qui y règne. Ceci suite au coup des balles et détonations entendues dans les collines surplombant cette cité. Des familles ont quitté leurs habitations pour se réfugier à Bouzibulenga, situé à environ 12 km de Minova. Contrairement aux rumeurs qui circulent, nos sources à Calais confirment que la cité de Minova reste sous contrôle des FARDC. Et les travaux de réhabilitation des constructions de l'aéroport de Kavumu sont à l'étape d'étude avant les débuts des grands travaux. La confirmation de Zeid Ben Ali, responsable de la société Sokeriko qui exécute ces travaux. Zeid Ben Ali, qui était notre invité ce matin, est revenu sur le déroulement de ces travaux. Mon nom c'est Hélène Boudjiriri, Emile Mouindo sur la mise en onde. Je voulais suivre la même édition dans sa version Swahili avec Ricky Ombeni. On se retrouve à 12h juste pour une nouvelle édition. Au revoir.